Les romans de la table ronde. Paulin Baris. Lancelot chez la dame du lac. 8. La dame qui avait voulu prendre soin des premières années du fils de la reine de Bénoïc l'avait mis d'abord, ainsi qu'on a vu plus haut, sous la garde particulière d'une de ses demoiselles. Comme il était plus grand, plus formé que les enfants de son âge, il sortit, dès sa quatrième année, de la dépendance des femmes, pour entrer dans celle d'un maître et apprendre ce qu'un fils de roi devait savoir. On lui mit d'abord à la main un petit arc et de minces bousons qu'il tirait à courte visée. Quand il eut la main plus sûre, il visa aux oiseaux, aux lièvres, puis il alla sur un petit cheval sans franchir la visible étendue du lac et toujours suivi de gentils compagnons. Il apprit les jeux de table et d'échecs et s'y rendit en peu de temps des plus habiles. Donnons maintenant une idée de sa personne à ceux qui volontiers entendent parler de beauté d'enfant. Il avait la chair de son visage heureusement entremêlée de blanc, de brun et de vermillon. La teinte rouge s'étendait et s'affaiblissait sans disparaître sur un fond de blancheur de lait, qui en tempérait l'éclat trop vif et l'ardeur trop grande. Sa bouche était fine et bien faite, ses lèvres fraîches et épaissettes, les dents petites, blanches et serrées, le nez légèrement aquilin, les yeux bleus, riants, si ce n'est quand il avait sujet d'être courroucé, car alors il semblait charbons embrasés et le sang paraissait jaillir des joues. Il fronçait du nez, soufflait comme un cheval, serrait les dents et broyait ce qu'il tenait en main. Il avait le front élevé et bien tracé, les sourcils bruns et fournis, les cheveux fins, blonds et naturellement lustrés. En avançant en âge, ils changèrent de nuance et devinrent fauves sans cesser d'être luisants et bouclés. Ses bras étaient longs et nerveux, ses mains blanches comme d'une dame, sinon que les doigts en étaient moins effilés et plus charnus. Jamais buste ne fut mieux pris, jambes plus solides et mieux formées. Que dire maintenant de son cou gracieusement posé sur ses larges épaules ? La poitrine seule était plus ample, plus gonflée peut-être que n'eût voulu la perfection de l'ensemble. Au moins, était-ce le seul point où l'on put, à tort ou raison, trouver à reprendre. Bien des gens, en rendant justice à son incomparable beauté, disaient qu'il eût été plus complète s'il avait eu l'avant du corps moins fourni. Mais la vaillante reine Guenièvre, à laquelle on en demanda plus tard le jugement, dit que Dieu avait dû commander à Dame Nature de prendre sur l'ampleur du cœur mesure de la poitrine. Car, dans la proportion ordinaire, ce cœur eût nécessairement crevé. Elle ajoutait : Si j'avais été notre Seigneur céleste, je n'aurais su rien mettre de plus ni de moins dans Lancelot. Il chantait bien quand il voulait, mais l'envie lui en prenait assez rarement car il était de nature sérieuse et calme. Cependant, quand il avait juste occasion d'être gai, personne ne l'égalait en paroles vives, enjouées, plaisantes. Sans jamais penser à se faire valoir et à vanter ses prouesses, il n'hésitait pas à dire qu'il croyait pouvoir obtenir de son corps tout ce que pouvait demander un grand cœur. Et cette confiance lui permit d'accomplir les hauts faits que nous aurons à raconter. Il est vrai que maintes gens, l'entendant ainsi parler, penchaient à l'accuser d'orgueil et d'outrecuidance, mais non. Cela venait de ce qu'il connaissait mieux que personne, la force de son bras et la puissance de sa volonté. Il n'avait pas seulement droit au prix de la beauté du corps. Vous ne trouverez jamais d'enfant ordinairement plus doux et plus débonnaire, bien qu'à l'égard des félons, il fût passe-félon. Sa largesse ne connaissait pas de bornes. Il donnait bien plus volontiers qu'il ne recevait. Prévenant, affectueux pour les gentilshommes, il témoignait une bienveillance naturelle pour tous ceux qu'il n'avait pas de bonnes raisons de mépriser. Il savait discerner les choses et les hommes. Il voyait juste, et cette sûreté de sens lui faisait tenir à ce qu'il avait une fois entrepris, en dépit de tout ce qu'on pouvait dire pour l'en détourner. Un jour, il était allé en chasse à la poursuite d'un chevreuil. Il dépassa bientôt ceux qui l'accompagnaient. Le maître voulut le rejoindre, mais son cheval, trop pressé des éperons, finit par le jeter à terre. Lancelot, cependant, chevauche à travers bois, atteint le chevreuil et le perce d'une flèche au passage d'une voie ferrée. Puis, il descend, lève le gibier en trousse et remonte, tenant sur le devant de la selle le brachet qui l'avait conduit sur les pistes. Comme il revenait sur ses pas et vers ses compagnons, il fait rencontre d'un valet marchant à pied et tenant en laisse un ronsin épuisé de lassitude. C'était un jouvenceau de prime barbe, le bliot serré dans la ceinture, le chaperon rejeté sur l'épaule, les éperons rougis du sang de son cheval. Confus d'être rencontré en si mauvais point, le valet baisse la tête en passant devant l'enfant. « Qui êtes-vous ? » demande Lancelot. « Où comptez-vous aller ?»« Beau sire, » répond l'inconnu. « Dieu vous croisse honneur, je suis un malheureux près de ne l'être plus encore, à moins que Dieu ne se lasse de m'éprouver. Je suis pourtant de ma mère et de mon père gentil de race, mais je n'en ai que plus de regrets. Un vilain souffre sans être malheureux par son habitude de souffrir. » Lancelot se sentit ému de compassion. « Comment ? » dit-il. « Vous êtes gentilhomme et vous vous désolez pour mauvaise fortune. Sauf la perte d'un ami ou la honte qu'on n'aurait pas moyen d'effacer, cœur d'homme doit-il mener grand deuil ?» Le valet comprit à ces mots que l'enfant était de haut lieu. « Sire, répondit-il, je ne pleure pas de bien perdu ou de honte que j'ai reçue, mais je suis ajourné à la cour du roi Claudas, où je dois combattre un traître qui, pour une affaire de femme, a surpris dans son lit et tué sans défense un preux chevalier de ma parenté. J'étais parti hier soir de mon logis, accompagné de plusieurs amis. Le traître me fit épier dans le bois où je devais passer. Des gens armés sortirent d'une embuscade, nous attaquèrent à l'improviste et blessèrent mon cheval, auquel il resta cependant assez de vie pour me tirer de ce guet-apens. Un prud'homme que je rencontrais me donna celui-ci, mais je l'ai si vivement éperonné pour arriver à temps qu'il refuse maintenant d'avancer. Ainsi, j'ai vu mourir ceux qui m'accompagnaient sans les venger, et je ne serai pas demain à la cour du roi. Mais, fait Lancelot, si vous aviez un bon cheval, pourriez-vous arriver à temps ? Assurément, quand bien même je ferai à pied le dernier tiers de la route. Vous ne serez donc pas au nid, faute d'un cheval. Il descend et donne au valet son bon ronsin. Le valet, consolé, ravi, monte et s'éloigne en prenant à peine le temps de remercier. Pour Lancelot, il replace le chevreuil sur la croupe de son nouveau cheval qu'il suit à pied, tenant le brachet en laisse. Il n'avait pas fait grand chemin quand vient à passer un vavasseur sur un pal froid, la verge en main et devant lui deux lévriers en laisse. C'était un homme déjà sur le retour d'âge. Aussi, Lancelot s'empressa-t-il de le saluer. « Que Dieu, beau sire, vous maintienne et fasse croître !» répond le vavasseur. Qui êtes-vous ? De ce pays. Mon enfant, vous êtes aussi beau que bien enseigné. Voulez-vous bien me dire d'où vous venez ? De chasser, comme vous voyez. Je vous ferai part de ma venaison, si vous le souhaitiez. Elle ne saurait, je pense, être mieux employée. Cher et bel enfant, grand merci. Une offre faite de si bonne grâce ne doit pas être refusée. D'ailleurs, le don vient bien à propos. J'ai marié ma fille aujourd'hui. J'étais allé chasser dans l'espoir de rapporter de quoi réjouir ceux qui sont de la noce. Mais je revenais sans avoir rien pris. Le vavasseur alors descend, détache le chevreuil et demande à l'enfant quelle part il entend lui faire. « Sire, dit Lancelot, n'êtes-vous pas chevalier ? Emportez le chevreuil tout entier, il ne peut être mieux employé que pour les noces d'une demoiselle. » Le vavasseur est charmé de si généreuses paroles. « Ah, bel enfant, ne viendriez-vous pas avec moi ? Ne me laisserez-vous aucun moyen de reconnaître tant de courtoisie ?»« Mes compagnons, reprit Lancelot, s'inquiètent en ce moment de ce que je suis devenu. Adieu, soyez-vous recommandés. » Et il s'éloigna du vavasseur, qui, tout en le suivant des yeux, cherchait à se rendre compte de ce que les traits du jeune chasseur lui rappelaient. « Oh, oui ?» se dit-il tout à coup. « C'est au roi Ban qu'il ressemble. » Et, revenant sur ses pas, il rejoint bientôt Lancelot que son mauvais chasseur avait peine à traîner. « Bel enfant, lui dit-il, veuillez me dire qui vous êtes. Vous m'avez remis en mémoire un noble prud'homme, autrefois mon seigneur. » « Quel était ce prud'homme ? » « C'était le roi Ban de Benoïc, et ce pays dépendait de sa terre. Il en a été dépouillé et son jeune fils déshérité. » « Et qui donc l'en déshérita ? » ?»« Un roi voisin, nommé Claudas de la terre déserte. Oh, si vous êtes le fils du roi Ban, au nom de Dieu, ne me le cachez pas. Vous trouverez en moi le sergent le plus fidèle, le chevalier le plus désireux de vous garder. » « Sire, fait Lancelot, fils de roi, ne suis-je pas ? Cependant, il m'arrive souvent d'être ainsi nommé, et je vous aime pour me l'avoir rappelé. » Le vavasseur reprit. « Enfant, qui que vous soyez, vous venez assurément de bonne race. Voyez ces deux lévriers, il n'en est pas de meilleur au monde. Prenez un des deux, je vous prie. » Lancelot, regardant les lévriers. « Je le veux bien et je vous en rends grâce, mais donnez-moi le meilleur. » Le vavasseur sourit et lui met aux mains la chaîne qui retenait le lévrier. Puis, ils se séparèrent en se recommandant à Dieu. Ne demeura guère que l'enfant rejoignit son maître et trois des compagnons. Ils s'étonnèrent de le voir revenir sur un maigre roncin, tenant deux chiens en laisse, l'arc passé au col, le carquois à la ceinture. « Ce cheval n'est pas à vous, » dit le maître. « Qu'est devenu le vôtre ?»« Je l'ai donné. » « Et celui-ci, où l'avez-vous pris ?»« On me l'a donné. » »« Je n'en crois rien, par la foi que vous devez à madame. Qu'avez-vous fait ?» L'enfant, qui n'eût voulu pour rien au monde se parjurer, dit l'échange du roncin, la rencontre du chevalier, le don de son chevreuil. « Comment ? » reprend sévèrement le maître. « Avez-vous pu donner un bon roncin qui n'était pas à vous ? Et la venaison des forêts de madame ? » « Ne vous courroucez pas, maître, ce lévrier vaut deux roncins. Par sainte croix, vous avez agi follement ! Et pour vous ôter la pensée de recommencer ? » Il n'achève pas, mais il lève la main et la laisse lourdement tomber sur l'enfant qui l'abat du cheval. Lancelot se relève, sans jeter un cri, sans faire une plainte. « J'aime pourtant mieux, dit-il, ce lévrier que deux roncins. » Le maître, de plus en plus irrité, saisit une de ces verges flexibles qu'on nomme encore courgis et en cingle les côtes du pauvre lévrier qui jette de longs cris. Lancelot avait reçu patiemment la buffe de son maître. Mais en voyant frapper son chien, il entre dans une rage furieuse et s'élançant sur le maître, il le frappe du bois de son arc au point de lui entrouvrir le crâne et d'en faire jaillir le sang. L'arc s'était brisé. Il en reprend les tronçons, revient au maître et lui en donne encore sur les bras, les épaules. Vainement, les trois compagnons essaient de le retenir. Il se retourne vers eux, tire trois flèches de sa trousse et menace de les frapper s'ils osent avancer. Ils aiment mieux lui céder la place. Alors, montant sur un de leurs chevaux, l'enfant soulève le lévrier, le place devant lui, le brachet derrière, et c'est ainsi qu'ils arrivent à l'entrée d'une lande où broutait un troupeau de biches. D'un premier mouvement, il lève la main pour prendre son arc et, ne le trouvant plus, « Ah ! Maudit soit le maître » dit-il, « qui m'empêche d'atteindre une de ces biches !» Et tout en regrettant d'avoir manqué une si belle occasion, il arrive au lac, franchit la porte, descend de cheval, salue sa dame et lui montre avec orgueil le beau lévrier qu'il ramène. Mais le maître ruisselant de sang avait déjà fait sa plainte. « Fils de roi, » dit la dame, d'un ton qu'il voulait paraître irrité. « Comment n'avez-vous pas craint d'outrager ainsi le maître aux soins duquel je vous ai confié ?»« Madame, » répond Lancelot, « il n'a pas rempli sa charge, car il s'est avisé de me reprendre d'avoir bien fait. J'ai souffert qu'il me frappât, mais je n'ai pu voir frapper mon beau lévrier. Le maître a fait plus encore. Il m'a empêché de tuer une belle biche que j'aurais eu grande joie à vous rapporter. » La dame l'écoute avec un plaisir secret. Mais elle le voit sortir en jetant au maître un regard menaçant et elle le rappelle. « Comment avez-vous pu donner un ronçain, une venaison qui ne vous appartenait pas? Comment n'avez-vous pas hésité à frapper le maître auquel vous deviez obéir en tout ?»« Dame, je le sais, tant que je serai sous votre garde, il me conviendra de prendre beaucoup sur moi. » Un jour, peut-être, s'il plaît à Dieu, recouvrai-je ma liberté. Cœur d'homme, je le sens, et mal à l'aise en restant trop longtemps sous la garde des autres. Il doit renoncer parfois à ce qui le ferait monter en prix. Je ne veux plus avoir de maître. Je dis maître, non seigneur ou dame. Mais malheur à fils de roi qui, donnant volontiers ce qu'il a, ne peut donner ce qui est aux autres. Comment ? Reprend la dame. « Pensez-vous que j'ai dit la vérité en vous appelant fils de roi ?»« Oui, dame, je suis fils de roi et j'entends pour tel être tenu. »« Enfant, qui vous a dit que vous étiez fils de roi, c'est apparemment mépris. »« J'en ai grand regret, car je sens bien à mon cœur que je serai digne de l'être. » Il s'éloignait tristement. La dame le rappelle encore et, l'ayant tiré à l'écart, elle lui baise les yeux, la bouche, avec la tendresse d'une mère. « Consolez-vous, beau fils, » dit-elle. « Je vous permets de donner à l'avenir ronçain, venaison, tout ce qu'il vous plaira. Vous auriez 40 ans au lieu de 12, qu'encore seriez-vous alloué d'avoir fait abandon largement de ce que vous aviez. Soyez maintenant votre seigneur et maître. Vous êtes en état de choisir entre le bien et le mal. Si vous n'êtes pas fils de roi, au moins avez-vous le cœur d'un roi. » Ici, le comte laisse un peu Lancelot pour revenir à la reine sa mère et à sa tante, la reine de Gannes, qui sont demeurées tristes et résignées dans le moutier royal.
Dracari. Più chiros tecumum iemiros, illandu batos. eleni per susu per stretis segelu erudat anongrusi per suru utrusi esintos lahusi harusa leitobu autoida haimerot geruhi seharus martosi rubiasa sofili kevi